Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Vous écoutez Radio Orient, l'invité de Pluriel est Gabriel Cohn-Bendit. Vous publiez pour une autre école aux éditions Autrement. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Cohn-Bendit, vous êtes un spécialiste de l'éducation. Vous êtes notamment le créateur du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Votre livre est publié quelques jours après la rentrée scolaire, la première rentrée de Vincent Peillon. Et cet essai est en quelque sorte une lettre que vous adressez au ministre de l'Éducation. Je crois d'ailleurs que c'est une habitude que vous avez depuis 1982 d'écrire à chaque nouveau ministre de l'Éducation. Le premier chapitre de ce livre s'intitule « Pour une véritable refondation de l'école ». Alors Gabriel Cohn-Bendit, est-ce que cela signifie que le ministre n'a pas encore véritablement commencé ce travail de refondation de l'école ?
Alors, il y a deux choses dans le livre. Il y a d'une part un certain nombre de choses qui, pour moi, sont fondamentales. Et quand on parle de refondation, c'est vraiment refonder, c'est-à-dire des ruptures fondamentales avec le système actuel. C'est évident que Peillon, pour l'instant, n'a fait aucune rupture. Il a réparé quelques trucs qui semblaient importants. Les centres de formation des maîtres qui avaient été supprimés, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il ait refondé quoi que ce soit. Et même les rythmes scolaires, c'est réarranger des choses, mais en soi, il n'y a rien de refondamental là-dedans. Et alors, l'autre partie de ce livre, alors on verra pourquoi, sur le fond, la forme, cette école ne me satisfait pas, mais il y a la stratégie pour comment on peut faire. Et là, je pense qu'il est impossible aujourd'hui de refonder l'école. Vincent Peillon a dit, tout ça se fera, ne peut pas se faire sans et encore moins contre les enseignants, d'où il faut tirer une croix sur la refondation. Il n'y aura pas. Si les enseignants étaient prêts à ça, on le saurait depuis longtemps et ce serait déjà en marche. Donc on ne peut s'appuyer que sur une minorité d'enseignants, là on peut discuter.
Vous dites 20%.
Alors 20%, c'est quand j'ai un peu bu et que je suis optimiste. Parfois, je descends à moins 10, 15, et quand vraiment ça va très mal, je suis en dessous de 10. Mais bon, entre les acharnés qui sont prêts à, ceux qui suivraient bien, c'est, bon, on peut arriver à des chiffres différents, mais qu'importe, c'est une minorité, et c'est sur elle qu'il faut s'appuyer. Ça, c'est pour moi la stratégie, celle que je défends dans ma première lettre ouverte à un ministre, c'était en 81. C'est mai 81 à Savary, c'est juste après l'élection de Mitterrand et la constitution du premier gouvernement Mitterrand. C'est effectivement, laissez-nous tenter, avec les élèves dont personne ne veut, des choses différentes. Alors on peut le faire à côté pour des élèves qui ont été exclus, comme on l'avait fait. Bon alors j'aime pas le terme lycée expérimental, et le premier recteur à l'époque m'avait dit « n'appelle pas ça un lycée, on va t'emmerder avec le bac ». Et vous êtes un centre de formation, il y a ceux qui peuvent et veulent passer le bac, et puis il y a les autres qui apprennent des tas de choses, et on va y revenir. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil, mais pas seulement prendre des élèves qui ont déjà décroché, qui sont... On est prêts, un certain nombre de gens sont prêts à aller en équipe, dans des écoles primaires, ou des collèges, puisque c'est là que c'est le plus difficile, où personne ne veut aller. Les collèges de banlieue... autour de Lyon, autour de Paris, dans le Nord, autour de Marseille, quartier Nord, etc. On prend les collèges, mais en équipe cohérente, qui a envie, qui ne compte pas ses heures, et voilà.
On va parler tout à l'heure, Gabriel Cohn-Bendit.
Ça, c'est la stratégie pour...
Voilà, de vos propositions, car effectivement, vous dénoncez le système actuel, mais vous avez beaucoup d'idées. C'est vraiment un livre réjouissant à ce niveau-là, parce que vous nous proposez une école idéale. On a du mal à croire, malheureusement, que ce soit possible.
C'est une école.
Une école possible.
Une école possible.
Voilà. Mais j'aimerais quand même qu'on parle... de l'actualité, 20% des écoles primaires et maternelles appliquent dès cette année la réforme des rythmes scolaires. 20%, c'est très peu. Avant de parler de l'application de cette réforme, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de ce décret qui prévoit une semaine de 4 jours et demi au lieu de 4 jours pour les élèves? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que ça allège la journée des élèves?
Ça pourrait l'alléger. Mais vous savez, moi, j'ai connu l'école primaire... lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour les croyants, essentiellement catholiques, le catéchisme, vendredi et samedi en entier. L'école primaire, c'était du lundi au samedi. Alors après, on a renié samedi après-midi, après on a enlevé. Pour moi, oui, il doit y avoir quelque chose qui encadre, qui permet aux enfants des activités, du lundi au samedi. Il y a des parents qui travaillent. Alors, on peut varier, on peut dire samedi après-midi. Bon, ceux qui ont des parents qui partent en week-end, ou même, moi ça me dérangerait pas, dès le vendredi soir, ils emmènent leurs gosses. Ils leur font faire des activités, hein. Mais les gosses dont les parents travaillent, qui n'ont aucun soutien à la maison, il faut qu'ils puissent être dans un lieu, mais un lieu agréable, hein, dont ils n'ont pas horreur et dont qu'ils n'essayent pas de fuir. Oui, moi, ce serait du lundi au samedi. Et l'école a une fonction garderie dans nos sociétés, aujourd'hui, urbaine, qu'elle n'avait pas au 19 et au début du 20e siècle. On était à la campagne. Quand on n'était pas à l'école, il y avait des lieux pour s'éclater, pour faire des choses. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. On pourra revenir sur, pour moi, au moins aussi scandaleux que c'est cette réduction de la semaine pour les enfants, donc augmentation de la journée, qui était faite que pour que les cadres puissent partir avec leurs petits chéris, et les enseignants, bien sûr, en week-end, dès le vendredi soir. Les vacances d'été sont un scandale, hein, c'était fait...
Oui, oui, on va y revenir tout à l'heure. Donc, je voudrais vraiment qu'on reste sur cette semaine de 4 jours et demi. La réforme a été dès le début très mal acceptée par les enseignants, par les parents d'élèves. On l'a vu notamment à Paris. Les parents ont le sentiment que leurs enfants servent de cobayes. D'après les retours que vous en avez, vous n'êtes enseignant aujourd'hui.
Je n'ai aucun retour.
Vous n'avez pas de retour sur cette rentrée scolaire.
Je ne suis plus.
Vous êtes retraité de l'éducation nationale
depuis 17 ans. Hein,
voilà, mais vous suivez de près. Vous suivez de près. Cette réforme.
Mais je suis pas en contact. Je suis un grand-père stérile, donc j'ai même pas de petits-enfants qui vont à l'école. Je sais pas. Mais ça ne m'étonne pas que le corps enseignant et les parents d'élèves des milieux classes aisées, etc., qui protestent, parce que je sais pas s'il y a des grandes protestations dans les quartiers populaires. Hein. C'est un scandale, nos enfants ne sont pas... Attendez, c'est une petite catégorie de gens qui protestent, bon, qui est importante chez les enseignants. Et bon, voilà, moi, je trouve tout ça désolant. Hein. Mais Payon a dit déjà la réforme des vacances sera beaucoup, beaucoup plus tard. On touche juste à la semaine, un petit peu, ce qui n'enlève rien aux enseignants, hein, puisqu'on fait faire par d'autres. Bon, c'est vrai que ça a sans doute pas été préparé, mais on est le pays où la semaine est la plus courte, où le nombre de jours de classe sur l'année est le plus nombreux, hein, et donc les jours de classe les plus lourds aussi. Les jours de vacances sont les plus nombreux, les jours de classe les moins nombreux sur l'année, sur semaine. Sur le fond, je suis pour une réforme profonde du rythme scolaire.
Voilà, mais on n'en est qu'au début. C'est pour vous, on n'en est qu'au début. Alors justement, vous avez fait allusion à Vincent Payon qui a reculé sur la diminution des vacances d'été. Il a décidé d'attendre 2015 avant de s'attaquer à ce sujet. Ces vacances, véritablement, sont trop longues.
Alors, écoutez, il faut savoir que ces vacances ont été instaurées à l'époque où, en gros, 80 à 90% des élèves scolarisés étaient dans le primaire. Donc, 90% des enseignants étaient des instituts. Il y avait un tout petit groupe pour les 5% qui allaient au lycée. La France était à 70% un pays agricole. Jamais les paysans n'auraient accepté en France que leurs enfants aillent à l'école quand il y a les travaux des champs de l'été. Donc, en gros, on a mis en chômage technique les instituteurs, c'est-à-dire 80 à 90% du corps enseignant de l'époque, parce que les gosses aidaient les parents. Aujourd'hui, il y a 1% de la population active qui est paysanne. Les enfants sont toujours en vacances, 2 mois, il n'y a plus de travaux des champs fait par eux, etc., parce qu'ils sont plus, hein. Ils tournent dans les quartiers, ils ont rien à faire.
Alors justement, c'est ce que vous racontez très bien dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on met les enfants en vacances, mais ce n'est pas des vacances pour les enfants, puisqu'ils ne sont pas, ils ne vont pas...
Si, c'est des vacances, ils vont pas à l'école.
Ils ne vont pas à l'école, mais en même temps, il n'y a pas d'activité pour les enfants dans les quartiers défavorisés.
Il n'y a rien. La grande époque des colonies de vacances après-guerre où les comités d'entreprise, où les villes faisaient qu'un certain nombre de gosses pouvaient partir, ou d'ailleurs, à une époque, les instituteurs n'étaient pas toujours un couple, il y avait le mari qui travaillait, et il faisait une colo de vacances, qui fait qu'il pouvait partir avec toute sa famille, sa femme et ses gosses, à la colo, ils étaient entretenus, c'est gratuit, il y avait un petit salaire, comme ça il pouvait aussi partir après, l'autre mois, tout, où il n'avait pas de travail. Donc tout ça a disparu. Hein. En gros, ils n'ont plus besoin d'argent, donc ils ne veulent pas faire de colonies de vacances. C'est un prix fou de payer salariés des gens pour les colos de vacances. Donc il n'y en a plus. Ce qui fait que les gosses des classes aisées, on dit toujours les vacances, actuellement, il y a pratiquement un enfant sur trois, ça c'est sûr, qui ne part pas du tout en vacances en été. Mais si je compte les vacances de Noël, les vacances de février, les vacances de Pâques, même les gosses de cadres, mais là, les cadres, on peut les envoyer ailleurs, etc., ne partent pas en vacances. Il n'y a que les gosses d'enseignants qui partent en été, à Noël, en février et à Pâques.
Donc vous êtes en train de nous dire que l'école aujourd'hui est faite pour les enfants d'enseignants.
Oui, mais tout à fait. C'est d'ailleurs eux qui réussissent le mieux à l'école. Et donc pourquoi les enseignants changeraient un système qui réussit aussi bien à leurs enfants ?
Alors, chaque ministre de l'Éducation arrive avec une réforme, sa réforme. Résultat, il y a un manque de lisibilité pour les parents, pour les enfants. Si la droite arrive au pouvoir, on imagine qu'elle va changer à nouveau l'école. Est-ce qu'il faudrait sanctuariser l'éducation, qu'on ait une même politique, quelle que soit notre sensibilité ?
Bon, alors, je sais bien, je suis ici dans un lieu où on aime bien sanctuariser. Moi, je suis un vieil athée, donc moi, les sanctuaires, c'est pas mon truc. Mais il faudrait effectivement que des politiques éducatives ne changent pas à chaque fois qu'on change de gouvernement. Ou même au sein d'un gouvernement d'une coloration, quand on change d'un ministre à l'autre. Hein, parce que sous une même majorité, il peut y avoir deux ministres qui font des choses assez contradictoires. Voilà, mais ça... Alors, qui doit décider ? Pour l'instant, le poids important, c'est encore une fois le corps enseignant. Hein ? Il accepte ou il n'accepte pas. Et il faudrait effectivement qu'il y ait un grand débat national et qu'il y ait... les gens participent hein, à ce que devrait être l'école. Mais c'est une chose difficile. Même les parents ont des avis contradictoires. Les parents qui peuvent payer de piano, le sport à leurs gosses, ils disent, mais quand on l'envoie à l'école, c'est pas pour faire du piano, du sport, de la musique, etc. Donc, qu'il n'y ait pas de musique, de théâtre à l'école, les classes privilégiées, ça les dérange pas.
Vous écoutez Radio Orient, notre invité Gabriel Cohn-Bendit, qui publie pour une autre école aux éditions Autrement. On se retrouve dans quelques secondes.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel avec Gabriel Cohn-Bendit. Je rappelle que vous publiez un essai intitulé « Pour une autre école » aux éditions Autrement, un livre qui donne à réfléchir. Alors avant la pause, vous étiez en train finalement d'être peu aimable avec le corps enseignant. Vous avez été enseignant vous-même. Oui. Vous dites qu'il y a, selon votre humeur du jour, 20% d'enseignants qui sont prêts à... Quand vous êtes optimiste, 20% d'enseignants qui sont prêts à réformer les choses. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réformer l'école compte tenu du poids des syndicats enseignants ?
Alors, bon, moi, la bagarre sur les syndicats enseignants, les syndicats, ils représentent les enseignants, y compris ceux qui ne sont pas syndiqués. Voilà. Hein, s'ils avaient d'autres attitudes, et il y en a qui ont d'autres attitudes, le SGEN, par exemple, a souvent d'autres attitudes, hein, le SGEN CFDT, il est minoritaire, hein, les gros syndicats auxquels j'ai appartenu.
Le SNES, par exemple.
Le SNES pour le secondaire. Donc, il faut pas dire, hein, c'est les syndicats qui bloquent. Les syndicats sont représentatifs.
Donc, ce sont les enseignants.
Ce sont les enseignants, dans leur majorité, qui bloquent. C'est la façon dont ils sont recrutés, dont ils sont formés, qui fait qu'il est très difficile avec ce corps enseignant. Et encore une fois, parce que, aussi, leurs enfants, cette école leur réussit bien. On a parlé des vacances, mais les vacances, et les vacances de mes enfants, sauf les devoirs de vacances, ils n'en ont jamais eu, mais les vacances, on circule à travers toute l'Europe, on fait l'Italie du nord au sud, on voit plein de choses, bien sûr que c'est très formateur, hein, mais c'est pas le cas des autres enfants. Voilà, c'est comme ça.
Alors, qui dit refondation, dit refonte des programmes. De quelle manière les programmes scolaires devraient-ils évoluer? C'est, vous parlez vraiment notamment de l'enseignement de l'histoire, de l'enseignement du français, des mathématiques. Vous en parlez dans le livre.
Alors, les programmes, c'est quand même deux choses. C'est un certain nombre de contenus et c'est aussi ce qu'on doit faire à chaque niveau, hein, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Hein. Bon, cette façon de concevoir l'école, j'y suis complètement hostile. Moi, un programme, ce serait à la fin de la scolarité obligatoire, 16 ans, le collège, voilà un ensemble de choses, de savoirs, de compétences qu'un jeune ou une jeune devrait avoir. Et ensuite, comment on arrive? Par quel biais? Ça, voilà, on laisse, et le rythme des gosses est très important. Il y en a qui sauront lire avant d'entrer en maternelle, voilà, c'est comme ça, sans qu'on les ait forcés. D'autres, c'est pas à 6-7 ans qu'ils avancent, c'est à 7-8 ans, et alors, hein, les enfants ont appris à marcher à des mois très différents. Hein, si on apprenait à marcher à l'école, tous les gens seraient dans des fauteuils à roulettes, hein, ils sauraient pas marcher, c'est évident. Hein, donc, il faut laisser les rythmes des enfants. Le programme, les gosses s'intéressent à des tas de choses, il faut laisser ça, les faire creuser les uns les autres. Je rappelle qu'un de mes amis, par exemple, disait, j'ai un enfant, il a appris à lire avec des coupures de journaux, des résultats, des matchs de rugby, ça le passionnait, dès 6 ans, il était passionné, ça découpait, et c'est là qu'il a appris. Un autre sur un manuel de bricolage, c'était un fou de bricolage. Manuel de bricolage, c'est pas passionnant pour la plupart des gens. Mais lui, c'était sa passion. Donc, laisser les enfants poser leurs questions et organiser le travail en petits groupes, etc.
Vous donnez un exemple dans le livre sur la géographie. Vous allez dans une école à Montreuil et une jeune élève originaire du Mali, en tout cas dont les parents sont nés au Mali, vous parle.
Alors, c'était une institution à Montreuil qui avait regroupé des tas de jeunes, qui les regroupait régulièrement. Et là, c'était des jeunes qui étaient regroupés pour préparer des articles pour trois grands journaux, Télérama, donc des choses sur la télévision, mais des vrais articles. C'était des gosses qui faisaient des petits journaux scolaires, hein, dans leur truc. Et là, c'était faire des vrais articles pour des journaux. Il y avait, pour Libération, à l'époque, avait une page Eureka sur les sciences. Et donc, des gosses devaient préparer des choses sur les sciences, bon, pour le journal. Et moi, ils m'avaient invité, ils préparaient pour le monde de l'éducation, dont on parlait tout à l'heure, qui existait encore à l'époque, des articles sur l'éducation. Et donc, l'animateur de ce centre à Montreuil m'avait fait venir. J'avais fait venir aussi d'autres pédagogues, hein, Philippe Mérieux, et moi pour parler du fameux centre lycée expérimental de Saint-Nazaire. Alors, petite anecdote. Alors donc, il y avait 5-6 élèves typiques Montreuil, 4 complètement blacks, et puis 2 teint clair, plutôt maghrébins. Hein. Voilà, c'était la population Montreuil. Alors, je leur ai présenté le lycée expérimental, et à un moment, j'ai dû sortir aux toilettes. Et l'animateur m'a dit, c'était très drôle, les gosses sont accrochés en disant, ils nous racontent des salades. Une école comme ça, ça n'existe pas. Jamais, attends. Et les autres, mais non, il a l'air sérieux quand même, ça n'a pas l'air de... Bon, bref. Donc, je suis revenu, et je leur ai fait faire un petit texte. Bon, dites-moi ce que vous pensez de l'école. Berck, bon, on n'aime pas, c'est mauvais, l'histoire, bon, ouais, la géographie, bon. Et j'avais demandé, alors là... interroger une petite fille qui m'a dit qu'elle était d'origine malienne. J'ai dit, mais attends, tes parents sont ici, en France, pourquoi ils ne sont pas en Allemagne, en Angleterre? Il y a eu quelque chose entre la France et le Mali. Ça t'intéresserait de savoir un petit peu ça plus... Elle me dit, bah oui, mais j'ai dit, c'est ça l'histoire. Hein. C'est l'histoire, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu entre la France et le Mali. Alors, et après, j'ai dit, mais le Mali, c'est grand, qu'est-ce qu'on y produit, qu'est-ce qu'on y cultive, tes parents, ils sont de quelle région du Mali, ça t'intéresse? Bah oui, mais j'ai dit, c'est ça la géographie. Oui, mais c'est pas ça qu'on fait à l'école. Voilà, bon, autrement dit, les gosses ont des intérêts, mais tout d'un coup, on leur présente des choses qui est loin de leurs préoccupations. Et c'est vrai que si on laissait faire des gosses qui sont d'origine malienne, d'origine, parler des coins dont ils sont d'origine, historiquement, petit à petit, après, on parlera d'autres choses, pas que de là où tu es né, où tes parents sont nés.
Ça ne se fait pas tout de même avec, il y a certains profs, j'imagine, un petit peu plus militants, de manière individuelle, qui le font.
C'est les 15-20%. Mais le problème, comment boucler le programme? Un gosse qui parle de ça au moment où au programme, il faut faire ça, comment le prof, il va boucler son programme à la fin de l'année? Les programmes, c'est aussi fait pour que les profs n'aient pas à parler entre eux. Je fais ce qu'il y a dans le programme, le prof qui vient l'année d'après, il commence. Les profs, ils terminent toujours le programme. Ouf, j'ai terminé mon programme.
Ce que vous dites, par exemple, c'est que il y a une école qui s'appelle l'école Vitruve à Paris, où les enseignants se réunissent tous les mardis soirs. Ils terminent en général leur réunion tous les soirs à 23h minuit. Effectivement, ce sont des enseignants volontaires. On n'imagine pas ça dans d'autres écoles. Enseignants qui se réunissent.
C'est des enseignants.
Jusqu'à minuit.
Bon, la plupart sont des amis et certains très proches. Alors Vitruve, c'est une école qui, dès les années...
Elle est située dans le 20e, dans le quartier Vitruve.
Dans le quartier Vitruve, hein, et qui a été créée en 1962. Eux, ils ont fêté 50 ans d'existence par un inspecteur primaire qui faisait partie des mouvements pédagogiques, le groupe français d'éducation nouvelle, etc. Et qui, depuis, marche comme ça. Quand Ségolène Royal, quelques années candidate, avait parlé des 35 heures de présence pour les enseignants, ce qui avait fait hurler, eux, ils ont dit à leur réunion, chic, nous, ça nous fera 10 heures de moins par semaine. Bon, voilà. C'est ça, c'est des enseignants, vraiment, les gosses, c'est important pour eux. Toute l'école, on n'est pas enfermé chacun dans sa classe, l'unité, c'est l'école, et ils travaillent tout à fait autrement. D'ailleurs, Madame Paul Angevin a été l'autre jour, c'est dans cette école qu'elle a été inaugurée, la petite charte de la laïcité.
Mais en même temps, ce que vous dites va faire hurler les enseignants. C'est-à-dire quand vous dites qu'ils devraient être beaucoup plus présents à l'école.
Mais c'est bien pour ça que je dis, laissez faire les enseignants qui sont prêts à faire ça. Bon, ceux qui sont à Vitruve, ça fait 50 ans qu'ils arrivent à regrouper. Il y a d'autres endroits où personne ne veut aller. Il y a une école à Mons-en-Barœul qui a été prise par une petite équipe plus homogène, là, pédagogiquement, groupe Freinet, etc., qui a été suivie pendant 5 ans par l'Université de Lille. Cette école, c'était dans un lieu, mais vraiment pourri, c'était grave, il y avait des l'absentéisme au primaire, il y avait des bagarres et tout. 5 ans, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, les gosses. Il n'y a pas de gosses qui sortent sans savoir lire et écrire.
Là, nos auditeurs doivent quand même s'interroger. C'est quoi cette école Vitruve, le lycée de Saint-Nazaire? C'est quoi la philosophie de ces écoles qui sont ultra minoritaires en France?
Oui, mais dont...
Mais vous aimeriez effectivement les développer.
On a une tradition qui remonte à très loin et dont, elle est la plus récente, je veux dire, vraiment, c'est... En gros, le mouvement Freinet, c'est après la guerre de 14, qu'il a lancé tout un mouvement pour pratiquer autrement. Ben, la philosophie, c'est que c'est pas aux gosses de s'adapter à l'école, mais de s'adapter aux gosses. C'est les gosses ont une culture, ils viennent avec ça, il faut s'appuyer là-dessus, même pour la contredire, même pour si elle bloque, mais on peut pas faire comme s'ils n'en avaient pas. Et puis voilà, on tient compte de leur curiosité. Les gosses sont curieux. L'école tue la curiosité. Les parents commencent par tuer aussi. Oh, arrête avec tes questions, on rentre fatigué. Il faut redévelopper tout ce que les parents ont un peu tué, parfois, quel que soit le milieu, fatigué le soir, pourquoi. L'école doit refaire vivre ça. Et les gosses, ils posent plein de questions. Ils ont envie. Et ben, on lui dit, on va travailler ça. Une seconde. Le mouvement Freinet a inventé un truc fantastique, une petite encyclopédie. Hélas, ils veulent pas la numériser, je sais pas pourquoi, là aussi ils ont des blocages. La bibliothèque de travail, c'est sur toutes les questions, les petites bestioles, la commune de Paris, tout ce que vous voulez, il y a un petit texte fait par une classe qui a travaillé ça, et si tu t'intéresses à cette question-là, si tu sais même pas, il y a une bibliothèque de travail, il y a une petite encyclopédie. voilà, laisser les gosses aller vers ce qui les intéresse. C'est comme ça que la lecture deviendra quelque chose d'intéressant. Et voilà.
Vous dites que l'école tue la curiosité, les parents aussi parfois. Oui. Vous avez le sentiment que l'école ne favorise pas du tout la créativité.
Ben là,
par exemple, vous donnez l'idée aux enseignants. Vous dites qu'il faudrait que chaque élève ait un email et un blog et qu'il puisse correspondre avec d'autres enfants d'autres écoles.
Une autre grande invention à l'époque de Freinet, il a instauré le journal scolaire. Hein. Alors à l'époque. C'était par la poste, hein, on envoyait, on faisait tous les mois un journal. Donc les gosses faisaient des textes libres, ils les lisaient en classe, on choisissait, la classe choisissait et lisait tel et tel qui allait dans le journal. Les parents le recevaient et l'école correspondait avec 4-5 écoles qui recevaient et qui envoyaient à leur tour. C'est comme ça qu'on motivait écrire, c'est pas faire une rédaction pour le maître qui est là, à qui on peut raconter, sur un thème qui vous intéresse pas. Et où après, en plus, il va noter toutes les fautes d'orthographe et il va mettre une note. Travailler dans ces conditions-là, c'est pas très passionnant.
Oui, ce que vous
dites. Faire un texte pour le journal.
Oui, ce que vous dites finalement, c'est que les enfants sont contraints d'écrire pour voir s'ils savent écrire, alors que vous pensez que d'abord il faut développer ce que l'on a en soi, l'envie de raconter. Tout le monde est un écrivain potentiel.
Alors, je sais pas, il y en a qui ce sera plus ou moins. Il y en a qui s'exprimeront plus par le dessin. Bon, ça, je sais pas, mais c'est vrai. Qu'en gros, il faut donner, même à ceux qui le feront un peu moins que d'autres, l'envie. Et après, ben, une fois que tu as l'envie, c'est vrai que ça va tout seul.
Et alors, sur la question de l'orthographe, là, vous êtes très très virulent. Vous dites, d'ailleurs, vous reconnaissez vous-même que vous faites parfois des fautes d'orthographe.
Non, souvent.
Vous en faites souvent des fautes d'orthographe et vous trouvez qu'on se focalise trop sur ces fautes d'orthographe.
Alors, je rigole parce que hier soir, je fais une petite signature du livre à côté d'une librairie, la parisienne, l'Arbre à Lettres, dans le 14e, dans un petit hôtel à côté où on est lié, et on a eu avec un journaliste d'un site une engueulade très forte sur cette histoire d'orthographe. Et ce qui est incroyable, personne ne sait. Alors, on confond orthographe et grammaire. Hein, orthographe et la langue française comme toutes les langues est d'abord quelque chose de parlé. Alors, plus ou moins bien, là, la correction de la langue, c'est une chose. Et alors après, il y a la transcription. Et c'est vrai que la transcription des langues a été un grand problème dans les différents, quel type de caractère, caractère arabe, caractère, cyrillique pour les langues. Bon, les chinois, c'est des idéogrammes. En gros, la plupart des langues, y compris l'arabe, il y a eu quelque chose qui se rapprochait à ce qu'on entend, hein, alors soit syllabique ou par lettre. Alors certains ont été très loin, et aujourd'hui par exemple, des tas de langues qui n'étaient pas transcrites, comme en Afrique, hein, Afrique noire, ont été transcrites par des linguistes phonétiquement. Hein, il y a un son O, hein, ça s'écrit pas de trois façons, A, U, E, A, U, O, etc. Et donc il y a une bataille en France, pareil, pour comment on va transcrire cette langue quand a été terminée l'époque où tous ceux qui avaient des choses à dire et écrire faisaient ça en latin. Bon, après, commencer avec une littérature qui s'est d'abord uniquement orale, les chansons de gestes, etc. Puis on a commencé à transcrire. Et là, bon, il fallait effectivement unifier. On a donné ça à ce qui allait devenir l'Académie française, hein, une bande de gens assez incompétents, et ils ont essentiellement insisté sur, disons, la transcription étymologique. Il y avait en face des gens qui étaient très pour une transcription phonétique, au plus près de ce qu'on entend. Il y a eu des écrivains, Voltaire était un fanatique de la transcription phonétique après. Hein. Lui, il écrivait philosophe F.I. Hein. Et les doubles consoles, mourir, un R, nourrir, deux R, un R, nourrir, mourir, il n'y a pas de raison de l'écrire différemment. C'est les étymologistes qui ont triomphé. D'où les TH, les PH. Bon. Attendez, en Italie, on philosophe avec S.
Les accents circonflexes.
Les accents circonflexes, pour rappeler que c'était avec un S, la best. Hein, donc, alors, bon. En Italie, au philosophe avec F, hein, philosophe, on va dans les pharmacies avec F. Les médicaments sont aussi efficaces en Italie dans les pharmacies avec F qu'en France dans les pharmacies avec PH. Hein, okay. Bon. C'est tout ce monde-là, et ça a été fait volontairement. Il y a la compagnie, ça s'appelle pas encore l'académie, la compagnie, à sa troisième session, a dit « L'écrit doit permettre de distinguer le savant de l'ignorant et des femmes. » D'où toute une écriture faisant référence à des étymologies. Bon, évidemment, dans le
Donc vous êtes en train de nous dire que l'orthographe a été instituée pour exclure ?
A été instituée pour exclure que l'écrit... Voilà, et personne ne sait qu'il y a eu toute cette bataille, qu'on aurait pu le faire autrement, qu'il y a eu, que les étymologistes ont perdu, mais y compris Ferdinand Bruno, qui était un grand historien de la langue française, lui s'est battu pour une réforme, et était de ceux qui, tous les TH, tous les PH, on supprime tout ça, et tous les Y. Hein. Chimie s'écrivait avec un Y à un moment, donc là il a disparu. Mais physique, ça reste toujours. On écrirait physique, F, I, etc. C'est tout aussi con. On a compliqué la chose. En France, 7, c'est SPT, pour rappeler que ça vient du latin septem, ce que tout le monde ignore. Hein. En Italie, langue qui vient aussi du latin, 7T s'écrit S-E-T-E. Et alors, on ne va pas me faire croire que les Italiens et les Espagnols, c'est un culte. Alors hier, j'ai eu une discussion très violente. Ah oui, mais la beauté de la langue.
Alors, je ne voudrais pas recommencer ce débat houleux que vous avez eu avec avec le journaliste hier soir. Oui. En revanche, qu'est-ce que vous dites quand même quand vous voyez donc des enfants qui ne maîtrisent pas l'orthographe? Vous dites, il faut, c'est pas grave, l'orthographe. Oui. Mais en même temps, ils vont se retrouver à un moment donné sur le marché du travail et ils vont être exclus parce qu'ils ne maîtrisent pas l'orthographe.
C'est vrai. Hein, d'où il faut le leur dire. Hein. Un, faire des fautes d'orthographe, c'est normal parce que c'est aberrant la façon dont on a transcrit.
Il y a même des présidents de la République qui en font.
Oui, et que c'est pas grave, que l'important c'est qu'ils aient des choses à dire, ils aient envie de le dire, et que maintenant c'est vrai aujourd'hui encore, il y a, et qu'il faut qu'hélas, on ne regarde pas le contenu des textes, mais comment ils s'écrivent. Et qu'un texte qui dit rien, mais sans faute d'orthographe, est préféré à un texte qui dit des choses passionnantes et où il y a des fautes. Mais les fautes d'orthographe, c'est pas seulement, je vais plus loin pour que les gens quand même réfléchissent un peu, c'est pas seulement des mots qu'on écrit avec PH ou avec L, comme physique ou philosophie, c'est aussi la langue française, la langue est correcte, a une particularité, le nom, en règle générale, n'a pas de pluriel. Que vous ayez un chien ou 10 chiens, c'est chien. Alors, puisqu'on est à Radio-Orient, que vous soyez monogame ou polygame, une femme ou 10 femmes, femme, c'est, on le prononce de la même façon. C'est la caractéristique du français. En anglais, girl, girls. Là, on entend, il y a un S. En allemand aussi, entre le mot singulier et le mot pluriel, il y a une différence. D'où les gosses oublient le S. Alors, il y a quelques noms qui ont une exception, mais ça, tout le monde, petit à petit. Alors, cheval, chevaux, ce qui donne sa belle histoire, la petite fille qui dit, « Oh, papa, regarde, il y a des chevals là-haut. » Le papa dit, « C'est pas des chevals, c'est des chevaux. » »« Oh, ça ressemble drôlement à des chevals. » Bon, mais, je veux dire, et on complique la vie des gosses avec ça, et j'en terminerai avec l'orthographe, il faudra un jour deux choses, aussi en grammaire. Le participe passé, mais il faut que les gens le sachent.
Parce qu'on a une pause publicitaire, je vais être obligé
vous
interrompre.
On le reprendra
après.
On
le reprend juste après la pause. L'invité de Radio Orient est Gabriel Cohn-Bendit, vous publiez pour une autre école aux éditions Autrement. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Dernière partie de Pluriel avec Gabriel Cohn-Bendit. Je rappelle que vous publiez pour une autre école aux éditions Autrement. Alors juste avant la pause, on parlait de l'orthographe. C'était vraiment passionnant. Et vous vouliez ajouter quelque chose sur le participe passé.
Oui, le participe passé. On embête les enfants sur l'accord du participe passé. Le participe passé, là encore en français, il est invariable. Hein, il est venu, ils sont venus, eu. Hein, j'ai mangé des pommes, ou les pommes que j'ai mangées, et... Sur l'accord, selon que le... C'est invariable. Qu'est-ce que c'est d'introduire ces choses-là dans... Bon, là, évidemment, les gosses, ils passent à côté. Hein. Ou, en gros, sont bons en orthographe des gens qui ont une bonne mémoire visuelle. Hein. Bon, et ceux qui, comme moi, sont des bavards et des oraux, et ben, voilà. Donc, c'est grave qu'on ait fait à ce point. On ne changera pas. Ce qu'il faut que les enseignants sachent, d'ici quelques années, nos ordinateurs corrigeront, et là, correctement, toutes les fautes. Hein, moi, déjà. Et donc, ça n'aura plus grande importance, c'est vrai, mais c'est quand même mettre dans la tête des gosses. Et c'est vrai que s'ils pouvaient taper tout de suite à l'ordinateur, alors là, horreur, hein, il va plus écrire en script, etc. Ben non, plus personne n'écrit en script, tout le monde tape. Eh ben, on tape, on apprend à lire et écrire, ce serait bien plus facile. Et là, les fautes d'orthographe, je dis dans quelques années, toute grammaire, truc, seront corrigées par l'ordinateur.
Alors, quand on lit votre livre, il y a un sentiment double, Gabriel Cohn-Bendit. C'est vrai que, voilà, on se dit qu'on aimerait, la connaître, cette école idéale que vous décrivez. Et en même temps, on est obligé de constater la réalité. J'imagine que les parents qui vous écoutent aujourd'hui doivent se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Puisque, par exemple, vous dites qu'on n'apprend pas la musique classique à l'école. Il y a un tas de, finalement, on passe à côté d'un tas de choses à l'école et les parents ne savent pas quoi faire.
Mais bon, c'est ça qui est grave. Je pense que l'école, justement, doit permettre de résoudre un certain nombre de questions que les familles ne peuvent pas résoudre. Hein. Et donc, je peux pas dire aux familles, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remplacer, surtout à des familles de milieux très populaires, etc. C'est à l'école de jouer ce rôle-là. Alors, la seule chose, je me bats, et là, les familles peuvent peut-être, dans les quartiers où il y a des collèges, des difficiles, hein, demander qu'il y ait des équipes d'enseignants cohérentes qui sont prêts à donner plus de temps. On peut pas obliger les gens à travailler plus longtemps. Donc, c'est des volontaires hein, qui travailleraient là les 45 heures, etc.
Les fameux 20%.
Les fameux 20%. Les syndicats pourraient pas protester puisque c'est des quartiers où personne veut aller. On oblige donc des volontaires qui vont là, ils prennent la place de personne. Ils n'ont pas besoin de primes non plus, de risques pour aller dans des quartiers où c'est difficile. Par contre, il y a plus de matériel dans les classes, etc. Bon, voilà, c'est la seule solution aujourd'hui, là où c'est le plus difficile, et de voir si on peut pas réussir. Et donc là, oui, des enseignants feraient écrire des enfants, leur diraient que c'est pas grave s'ils font des fautes, que c'est normal, mais que dans le monde d'aujourd'hui, et tant que eux seront pas encore adultes, ils ont un autre regard, il faut faire attention d'en faire pas trop. Si ce n'est que les CV maintenant, on les a tout faits, il faut pas rigoler, ils seront pas jugés à l'embauche sur leur orthographe, puisque le CV qu'ils remettront, ils peuvent le trouver tout fait, etc. Mais voilà, et que l'important c'est d'avoir envie d'écrire. Et quand toute cette génération que le philosophe Michel Serres appelle mes petits poussets, mes petites poussettes, parce qu'avec le petit pouce là on écrit, quand elle aura généralisé sa façon d'écrire, parce que c'est la grande révolte contre l'orthographe, là, les petits SMS qui horrifient tant le corps enseignant et les adultes, c'est comme ça, on comprend rien, hein, mais les gosses se comprennent très bien. Et la première grande révolte, c'est la guerre de 14, quand les parents et les enfants qui étaient au front s'écrivaient. Bah oui, il faut les lire à voix haute, les lettres des, hein, sans ça. Mais là, ils avaient envie de communiquer parce que, et ils se foutaient éperdument d'être bons ou pas en orthographe.
Alors, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, Gabriel Cohn-Bendit, parce que j'ai lu votre livre et également l'article que vous avez publié cette semaine dans Libération sur la laïcité. Vous développez des idées très minoritaires en France sur cette question de la laïcité. Pour vous, il n'y a pas de problème. On peut venir à l'école en portant un voile. On peut même imaginer qu'un imam, un rabbin fasse l'école, un curé. Pour vous, c'est même souhaitable. Non seulement c'est normal, mais c'est même souhaitable.
Souhaitable, je ne sais pas. Là-dessus, je ne sais pas. Mais si un rabbin ou un imam a les diplômes en mathématiques ou en philo, bon, le rabbin...
Vous rappelez l'abbé Pierre qui venait siéger avec sa soutane à l'Assemblée nationale.
Ça, c'est autre chose. C'est dans une institution comme l'Assemblée. Je dis, si aujourd'hui, une jeune élue, ou moins jeune, avec un turban, je dis même pas un voile, venait, ce serait un scandale, toute l'Assemblée dirait, tu retires ça, ou tu sors. Je rappelle que l'abbé Pierre, personnage le plus aimé en France, etc., de tous les milieux, a siégé pendant des années à l'Assemblée nationale avec sa soutane, et que l'Assemblée n'est pas devenue un truc communautaire ni catho, parce que l'abbé Pierre, il y en avait d'autres, hein, le chanoine Kir, moins populaire, etc., siégeait aussi. Une institution, c'est l'institution qui est laïque. Ça veut dire qu'elle accepte tout le monde tel qu'il est. Hein. les petites filles avec voile, les petits gamins avec kippa. Et là, s'il n'y en a plus des gamins avec kippa, parce qu'ils sont dans des écoles confessionnelles, ce qui pour moi est le pire. Dans quelques années, des grands pays qui ont beaucoup d'argent, le Qatar, au lieu de s'occuper que des équipes de football, vont faire des écoles où les filles pourront venir avec turban et ça, on aura
ça vous enfermé.
Moi, ça me
fait
peur.
C'est ça le vrai communautarisme.
Ça, pour moi, les petits cathos dans des écoles cathos, les petits musulmans dans des écoles musulmanes, les petits juifs, et les petits athées, alors dans l'école publique. Moi, je suis pour que tout le monde soit dans la même école. Tu viens comme on veut. On respecte, y compris pour le manger, je le dis, pour ce halal ou kasher, la viande, pas de porc, etc. On n'a pas mangé de poisson, et toujours dans plein de cantines, le vendredi, parce que les catholiques ne mangent pas de poisson. Dans toutes les écoles laïques, on mangeait du poisson. Donc, je dis, on peut respecter tout ça. Autre problème, c'est si des familles disent, ah, telle partie du programme, hein, sur la reproduction, non, je ne veux pas, on interdit. Là, on se bat, non, ça continuera. Ça, à l'école, on le fera, mais on peut débattre. Des gens disent, oui, mais s'il y a des créationnistes, ben, ils développent des idées. Moi, ça m'est complètement égal qu'un élève dise, moi, non, c'est Dieu qui a créé, c'est pas la sélection naturelle des animaux. Eh ben, on en débat, travaille un peu ta question, expose à tes camarades, comme ça, on se forme.
La charte de la laïcité qui est censée être affichée dans tous les lycées, les écoles primaires, les collèges, pour vous, ça sert à quelque chose ?
Non. C'est-à-dire une charte de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que devenir citoyen ? Comment respecte ? On ne tape pas tout de suite quand on n'est pas d'accord. Comment on traite ? Ça, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? Comment on le fait ? Et on l'élabore avec les élèves, hein, comment on discute ici? Comment ici, dans une école où il y a un peu de tout le monde, hélas, il n'y a plus comme ça. Comment on traite le Moyen-Orient? Comment on traite le problème de la Syrie? Ça vous intéresse?
On va les Roms, vous dites qu'il faudrait parler de la question des Roms aussi à l'école.
C'est toute la presse, les Roms. C'est quoi les Roms? D'où ça vient ce truc? Chacun peut parler de ses origines, mais même quand il n'y a pas de petits Roms en classe, puisqu'hélas, ils n'y vont pas, etc. Que les gosses travaillent toutes ces questions, à l'école, et c'est...
Et la morale laïque, c'est...
Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas une morale laïque. Pour moi, la morale laïque, c'est cette chose unique. Tout a le droit de venir dans l'école. Personne n'a le droit d'en faire. C'est pas une école qui est musulmane. L'école laïque. Si on veut faire des écoles musulmanes, des écoles catholiques. Mais l'école laïque, elle appartient à personne. Ni aux athées, ni aux marxistes, ni aux machins, elle est à tout le monde, et on s'arrange pour débattre. Cette école en plus, où on n'a pas le droit d'exprimer ses idées politiques, mais si, et on en discute ensemble.
Alors justement, Gabriel Cohn-Bendit, avec beaucoup d'humour, vous rappelez que les reproches qu'on fait à l'école ne datent pas de mai 68, une période à laquelle on vous associe, vous et votre frère Daniel Cohn-Bendit. Vous montrez que même à l'école, à l'époque de Socrate, on se plaignait déjà du comportement des élèves. Et puis alors, vous venez de prendre le livre. J'imagine que vous allez peut-être nous lire le poème de Victor Hugo que vous publiez intégralement dans le livre.
Alors d'abord, deux, si on a deux, trois secondes.
Deux minutes, malheureusement.
Sur l'autorité, notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité, n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler, ils sont tout simplement mauvais. Plein de professeurs aujourd'hui, plein d'adultes aujourd'hui, c'est Socrate en 2400 avant 1968. Mais je peux vous dire aussi, cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les jeunes sont malfaisants, paresseux, ils seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture. Inscription sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone, 5000 avant 1968. Alors, ces discours sur la jeunesse, l'autorité, c'est vieux comme le monde, il y a toujours eu des problèmes, c'est pas vrai.
Mais vous sentez quand même, notamment à droite, on remet en question mai 68 depuis déjà quelques années.
Oui, mais il faut à chaque fois avoir quelque chose pour dire c'est lui qui est responsable. Ça nous évite de réfléchir à que les jeunes, hélas, ne sont pas contre l'autorité. L'autorité du chef de bande, du truc, ils le respectent. Et comment ils le respectent ? Moi, j'aimerais bien que ce soit des petits libertaires qui n'aiment pas l'autorité. Non, c'est l'autorité du maître et des parents qui est remis en... Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour que cette autorité-là ne soit plus respectée par les jeunes, alors que eux se soumettent à la pire des autorités, et puis alors là, ça rigole pas, hein, si tu respectes pas le chef de bande, non, tu en prends plein. Voilà. Sur l'autorité, c'est pas comme ça. Hein, c'est en travaillant autrement, en faisant pas d'angélisme, il y aura des trucs difficiles. Moi, je me suis engueulé avec plein d'élèves, mais ils avaient le droit de me répondre. Ils avaient le droit de se défendre.
Vous avez bien sûr comparé le système scolaire français à ce qui se passe à l'étranger. Il nous reste une minute. On donne souvent en exemple les pays nordiques. Quels sont les pays dont on devrait s'inspirer ?
Oui, il y en a plein. Hein. C'est la Corée, la Finlande sont les pays où ça marche mieux. Mais on a ici des exemples, une équipe d'enseignants qui respecte les mômes, qui dit c'est, il faut que tous les gosses, pas seulement les miens, hein, réussissent. Alors, je dis souvent, l'école est faite pour les enfants d'enseignants, mais les enseignants sont démocrates. Ils acceptent que d'autres y viennent aussi, hein, mais c'est à leurs risques et périls. Hein. Bon, bref, il faudrait une école qui tienne compte de tout ça, hein, et quand ça marche pas, bon, de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait, hein, que des gosses se révoltent, qu'il y ait des coups avec des enseignants. Ça m'énerve chaque fois que les enseignants disent « Ah oui, mais il faudrait que le recteur... » Qu'est-ce qu'il peut faire, le recteur ? On sait que Madame Intel va, un jour, ça va mal se terminer.
Pourquoi ce que vous dites dans le livre, c'est que vous avez le sentiment que les enseignants ne prennent pas toujours leurs responsabilités.
Oui. Moi, dès qu'il y a un truc grave dans une école, et dont on dit « On le savait depuis longtemps », qu'est-ce qu'on a fait depuis ce longtemps pour réunir tout le monde, les élèves et les parents ? Il va se passer quelque chose de grave, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il trouverait les solutions. C'est pas au recteur qui est là-bas dans son bureau de résoudre ce problème, ni même au chef d'établissement qui est là-bas dans son bureau aussi. C'est aux enseignants de trouver des solutions. Et c'est parfois difficile, c'est vrai.
Merci Gabriel Cohn-Bendit. Je renvoie nos auditeurs à votre livre pour une autre école aux éditions Autrement. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui se sont abordés, le bac, les devoirs. Vous êtes vraiment non conformiste et c'est en tout cas très réjouissant de vous lire. Merci, bonne soirée.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.